Tov, shalom les koulam, boker tov les koulam. Voilà, on est parti. On est parti pour notre étude de l'histoire de la Kabbalah et nous sommes arrivés au tout début du XXe siècle. Ça y est, on commence à se rapprocher de notre époque. Et donc, dans ce tout début du XXe siècle, eh bien, nous allons parler de plein de gens. Aujourd'hui, on parle de plein de gens. On parle de plein de gens. Oui, ça fait quelques semaines qu'on faisait à chaque fois un cours, une personne. Là, nous allons parler d'au moins cinq personnes ce matin. Il y a une tsissa, il y a une ébullition de Torah Tassod au début du XXe siècle qui n'est pas du tout là pour nous étonner. Puisque le processus de la Géoula se met en place, à ce moment-là, eh bien, il est évident que Torah Tassod boue à ce moment-là également. Et on va retrouver des rabbins qui, alors pour certains sont connus, très connus, d'autres moins, mais il y a dans tout le monde juif j'ai envie de dire oui, tout le monde s'occupe de ça. Tout le monde s'occupe de ça et c'est même plus caché. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'au début du XXe siècle, Torah Takabbalah devient, c'est normal. C'est normal et donc les rabbins, ils vont être évidemment, comme d'habitude, parce qu'il y a l'achat, ce que tu veux, et qui vont avoir aussi une responsabilité de Hanagat Tsibourit. Eh bien, vont être également des Mekoubalim. Vous allez me dire, mais ils ont tous eu une Hanagat Tsibourit. Alors oui, mais non. C'est-à-dire que très souvent, on a vu les Mekoubalim qui avaient des fois des postes, qui étaient Rosh Yeshiva ou qui étaient des grands rabbins, mais leurs élèves Mekoubalim, ce n'était pas tout le monde. C'était une partie. Là, on va voir des rabbins qui vont rentrer les enseignements kabbalistiques dans l'enseignement général. Alors, de quoi on parle? Eh bien, on va faire un petit tour d'horizon du monde. Et nous allons commencer, nous partons là-bas, loin, en Pologne. Nous partons en Pologne, plus exactement dans la région de Varsovie. Et là-bas, nous allons rencontrer un personnage extrêmement important qui s'appelle Rabbi Yehuda Aryeh Leib Altar, un des ancêtres certainement de notre vénérable David Altar. Eh oui. Alors c'est qui ce Altar, Rabbi Yehuda Aryeh Leib Altar. Eh bien les amis, il est là. Voilà. Il est là. Comme ça. Je vous mens pas. Quand je vous dis qu'à chaque fois que je vous cite quelqu'un, c'est pas les gens inconnus au bataillon, c'est les gens que j'étudie moi au quotidien. Eh bien voilà, vous avez ici le livre extraordinaire qui s'appelle Le Sfat Emet. Et oui, c'est qui ce Rabbi Yehuda Aryeh Leib Altar? C'est le deuxième Rabbi. C'est le. Ah, j'ai flouté. Ah ben bravo. Ah, bravo. Voilà, je défloute. Allez, c'est parti. C'est le deuxième rabbi de Gour. De Gour. Eh oui, vous connaissez la chassidoute de Gour. Eh bien, le Sfat Emet est le deuxième rabbi de la chassidoute de Gour. Le premier, c'était son père, qui s'appelait le Chidushé Harim. C'est le nom de son livre, qui était un livre, j'allais dire, complètement halachique. Alors que le Sfat Emet est un livre de Chassidoute, un livre incroyable. D'un côté, il y a tout le monde, j'allais dire, du pilpoul yeshivati, mais d'un autre côté, il y a tout l'enseignement de la Chassidoute dans ce livre. Et donc, le Sfat Emet fait partie des piliers de l'enseignement de la Torah à la fin, non, même pas à la fin, au début du XXe siècle. Alors, Le Rav Ariel Leib Alter va naître en 1847. Il mourra au tout début, on a dit, du XXe siècle, en 1905. Il est le patron, plus ou moins, des rabbins de Pologne de cette époque-là. Il n'y a pas grand-chose à redire. Évidemment, ce livre-là va être une pierre angulaire si on veut comprendre la Torah. Puisque le Sfat Emet, et plus particulièrement le Sfat Emet à la Torah, eh bien, va révéler complètement la Shita de Gour. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que la chassidoute de Gour, c'est la chassidoute la plus importante en Israël. La plus grande chassidoute en Israël, c'est Gour. D'accord ? Quelle est leur Shita ? Vous le savez ou vous ne le savez pas, je vais vous le dire maintenant. Chez les chassidim, chaque chassidoute prend une des midot, si vous voulez, pour en faire la mida sur laquelle ils vont se concentrer. Eh bien, alors que nous, on a été habitués avec Chabad de Tzivot Hashem, ce que tu veux, la chassidoute de Gour, Zet Tzivot Hashem. C'est-à-dire que même dans les nigunim, cela se ressent. Et oui, parce que là, c'est quelque chose qui est important de rappeler. Dans le monde de la chassidoute, il y a une dimension très importante dans la transmission de la Torah qui s'appelle le nigun. Le nigun, et non pas le chant, le nigun n'est pas seulement là pour faire joli, mais il est là pour transmettre un message. Si le nigun est plus lent, plus rapide, ça veut dire quelque chose dans ce que j'ai envie de transmettre. Et dans les nigunim de Gour, eh bien, il s'agit de marches militaires, pour la plupart russes, voire napoléoniennes, qui ont été remasterisées. En d'autres termes, nous avons ici une chassidoute qui se veut Milchamat Hashem. Aujourd'hui, Begour, c'est une chassidoute qui est moite-moite. Ça veut dire quoi, moite-moite? Il y a tout le bagage chassidique et kabbalique du Sfat Emet, mais il y a également tout le bagage limoudi du Chidushé Arim. Et donc, nous avons l'habitude de dire aujourd'hui que chassidoute, c'est que Gour, c'est la chassidoute la plus... Hop, c'est la chassidoute la plus litaïte de toutes les chassidouillotes. C'est-à-dire, c'est la chassidoute la plus limoude de toutes les chassidouillotes. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de la Shita du Sfat Emet? Exemple. Nous dit le Sfat Emet, « Vechol ha'am ro'im et akolot ». Vous savez, dans la paracha de Yitro, ça y est, que nous sommes rentrés dedans, eh bien, on nous dit « Vechol ha'am ro'im et akolot ». Veta lapidim, veta kol ha-shofar, veta ha-rachen. Eh bien, pose la question le Sfat Emet et dit, mais attends, vechol ha'am ra'u et akolot. Puisqu'on est en train de te rappeler, on est après le Mahamad Arsinaï et on fait un récapitulatif. Et donc, normalement, on aurait dû dire vechol ha'am ra'u et akolot, veta lapidim. Nous dit le Sfat Emet, pourquoi il y a marqué au présent? Eh bien, parce que la Torah est quelque chose qui se transmet au présent. Même si le Mahamad est terminé, la transmission entre le maître et l'élève, le père et son fils, fait de la Torah une transmission au quotidien, éternelle, et non pas figée à un moment donné, de sorte que tu vas parler au passé. Eh bien, ça, c'est l'enseignement du Sfat Emet. L'enseignement de dire la Torah, elle n'est pas figée. La Torah, et particulièrement la Torah orale, eh bien, c'est une Torah qui va continuer au quotidien. Hop là. Voilà. Un problème d'écran. Voilà, c'est vrai. Bekitsour, ça c'est pour ce qui est de l'enseignement du Sfat Emet. Alors, on ne va pas partir très loin, maintenant qu'on est parti de Varsovie, on ne va pas partir très loin, on va aller au sud. Mais au sud de quoi? Eh bien, au sud de la Pologne. On reste en Pologne et on va partir au sud de la Pologne, en Galicie. En Galicie, c'est de là d'où viennent mes ancêtres, personnellement, donc David Altar, c'est plus le nord de la Pologne. Eh bien, ici, on parle de la Galicie et là-bas, on va rencontrer un rabbin qui est lui aussi descendant d'une grande chochelette, mais qui va avoir une révolution après la Shoah. Quelle est cette révolution? Qui est ce rabbin? Je parle de Rabbi Aaron Rockach. Alors, la vérité, c'est que j'aurais pu en parler la semaine prochaine, parce que il va quand même être plus dans le 20e que dans le 19e. Il naît en 1880, mourra en 1957, mais je le mets avec le Rabbi de Gour, parce qu'on est sur le même... sur le, la même ambiance. Et donc, je parle ici de Rabbi Aaron Rockach, qui n'est autre que le Rabbi de Belz. Le Rabbi de Belz. Et vous connaissez la chassidoute de Belz, puisque vous connaissez certainement la synagogue de Belz. La synagogue de Belz, magnifique, qui a l'air de ressembler au Beth Amikdash quand on le voit de loin. Eh bien, le Rabbi de Belz va être celui qui va prendre une décision fondamentale. Et oui, pourquoi? Lorsque la nuit de Hoshana Rabba, en 1939, les premiers soldats nazis rentrent dans le village de Belz, eh bien, le Rebbe va prendre une décision. La Shoah en est même pas encore à ses débuts. L'armée allemande vient seulement de rentrer en Pologne. Il va y avoir le pacte de non-agression germano-soviétique. Mais au moment où le Rabbi de Belz voit cela, il prend une décision. Il dit, quoi qu'il arrive, qu'on subisse ou pas, eh bien, la chassidoute partira en Eretz Israël. Zéo. La chassidoute de Belz partira en Eretz Israël. Et effectivement, c'est lui qui va, après avoir survécu à la Shoah, c'est lui qui va ramener tous les survivants de la chassidoute c'est lui qui va chauffer tout le monde à partir en Eretz Israël. Et effectivement, voilà ce qui va se passer. Alors attention, au départ, lorsque en 1944, il réussit à partir en Eretz Israël. Oui, on est en plein milieu de la Shoah, il réussit quand même à partir. Eh bien, le Rebbe de Belz va refuser, dans un premier temps, d'aller s'installer à Jérusalem, ou à Bnei Brak, ou à Petah Tikva. Mais il décide d'aller habiter dans la rue Echad Ha'am à Tel Aviv. Mais attendez, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que tu vas habiter à Tel Aviv? Rabbi de Belz, tu vas habiter à Tel Aviv? C'est très bizarre. C'est pas vraiment une ville de belles et attitudes. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que le Rabbi de Belz, et on va parler de lui juste après, mais le Rabbi de Belz va être influencé par un autre rabbin dont je tais le nom pour l'instant. Ça va être notre troisième et dernier rabbin chassidique de la matinée. Mais le rabbin de Belz est inspiré par ce rabbin-là et dit, moi, je le suis à Tel Aviv. Bon, aujourd'hui, Kiryat Belz, c'est à Jérusalem. Les choses ont un peu évolué. Mais il n'empêche que, eh bien, la chassidoute de Belz, qui est une chassidoute qui est basée, alors on a dit, Gour, c'était Tzivot Hashem, eh bien, Belz, c'est ce qu'on appelle Tiferet. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu faire de leur synagogue, eh bien, un endroit qui est ressemblant au Beth Amikdash. La chassidoute de Belz est une chassidoute qui est beaucoup plus chassidique que Gour, on a dit, qui était beaucoup plus limoudique. N'y avait-il pas dit à ces chassidim de rester en... Oh là, j'ai raté. Attendez, excusez-moi. Voilà. N'avait pas dit à ces chassidim de rester en Pologne, de sorte que beaucoup de ceux-là vont mourir en Pologne. Alors, non. Ce n'est pas la même chose que le rabbi de Satmer, dont on ne parlera pas dans notre cours. Car le rabbi de Satmer, effectivement, lui, a dit à tout le monde de rester en Pologne, qu'il ne se passerait rien, tout ira bien, et lui, il s'est barré pendant la nuit. Le rabbi de Belz, c'est la communauté qui refuse que le rabbi reste avec eux. C'est-à-dire que le Rebbe décide de rester avec eux et de pouvoir emmener toute la communauté quand on pourra emmener toute la communauté. La décision est prise en 39 que tout le monde part. Évidemment, ce n'est pas faisable. Et donc, en 44, la communauté réussit à faire s'enfuir le rabbi de Belz et leur dit, vous viendrez nous chercher quand ce sera possible. Et c'est ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il part en 44. Alors, il y en a qui diront, bah, tu aurais dû rester avec ta communauté. Mais c'est quand même différent que de dire à sa communauté, restez, tout ira bien et moi, je m'enfuis. Donc, évidemment que c'est incomparable. Et à la fin de la guerre, eh bien, le Belzeroув va effectivement ramener la chassidoute de Belz, du moins dans ce qui en reste, en Israël. Mais ça a l'air donc très très différent du rabbi de Satmé. Alors on a dit la chassidoute de Belz est beaucoup plus nigounite que la chassidoute de Gour qu'on a citée tout à l'heure. Et le rabbi Aaron Rocard, eh bien, va inventer énormément de nigounim qui sont par contre beaucoup plus apaisés que les nigounim de Gour. Il écrira que les nigounim qu'il écrit sont dus à l'ère d'Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'ils sont plus apaisés. Tov? Mais j'ai dit que notre rabbi de Belz a été inspiré par un autre rabbin. Ah, bah cet autre rabbin dont on va parler ce matin, c'est un de mes préférés. C'est un rabbin, alors là, pour le coup, je vais vous dire que personne ne connaît. Mais alors, quand je te dis personne, personne. Et quand j'emmène des groupes à Tel Aviv pour nous balader un petit peu, hop là. Quand j'amène des groupes un petit peu à Tel Aviv et que je les amène dans la rue qui s'appelle la rue Bialik et que je leur dis, vous connaissez Chaim Nachman Bialik? Ben, c'est pour ça qu'il y a la rue Bialik. Et je leur montre la maison de Bialik. Seulement en face de la maison de Bialik, il y a un Beit HaMidrash. Un Beit HaMidrash qui est en travaux, mais depuis trop longtemps d'ailleurs, mais un Beit HaMidrash d'un rabbin très particulier. Et ce rabbin très particulier, il s'appelle Rabbi Israël Friedman Meoussiatine. Et là, il faut qu'on en parle, les copains. Rabbi Israël Friedman Meoussiatine, vous vous rappelez certainement, on avait déjà évoqué la chassidoute de Rougine avec le grand-père de Rabbi Israël Friedman, qui était le fondateur, Rabbi Israël de Rougine. Eh bien, Rabbi Israël Friedman de Oussiatine est le descendant de la chassidoute de Rougine. On avait dit Rougine, c'est la malchoute, mais la chassidoute de Oussiatine est très particulière. Pourquoi? Eh bien, j'aimerais que vous compreniez ce que c'est que la Torah de Oussiatine. Alors, Oussiatine, c'était un petit bled en Pologne, évidemment, en Galicie. Seulement, le Rebbe de Oussiatine, en 1921, décide de venir en Israël, avec tous ses chassidim, et il décide de s'installer à Tel Aviv. Et quand on lui demande pourquoi il va s'installer en Tel Aviv, il répond très simplement: je m'en fiche de savoir s'ils mangent kasher ou ils font Shabbat, je vais dans une ville juive, là où il n'y a pas de mosquée, là où il n'y a pas d'église. Et voilà. Le Rebbe de Oussiatine est un rabbi ultra-sioniste. Et vous savez ce que les rabbanim font lorsqu'on arrive à Shabbat? Les rabbanim chassidim, le Shabbat, ils font ce qu'on appelle un tish. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller assister à un tish chassidique, mais c'est quoi un tish? Eh bien, un tish, ça vient du yiddish, ça vient de l'allemand tuch ou tuch, qui est une table. Et donc, le tish, c'est lorsque tu as une longue table et le Rebbe va non pas parler, mais on va manger et chanter. Il y aura certainement un petit Dvar Torah de 2 minutes, mais ce n'est pas un truc limoud. C'est on vient se connecter avec la Chavaya Hakiyumit du Rebbe. On vient se connecter non pas avec la Torah du Rebbe, mais avec le comportement du Rebbe. Et le Rabbi de Oussiatine, il va faire un tish mémorable, mémorable, mais juste fantastique. Et on a la chance de l'avoir eu en retransmission. Il va faire un tish mémorable le jour de Shabbat du 14 mai 1948. Et oui, il est en Israël au moment de la création de l'État d'Israël. La création de l'État d'Israël, c'est en 1948. Et lui, il fait son tish. C'est en 1948, c'est râle, mais c'est vendredi. Vendredi à 4 heures. Et donc lui, quelques heures plus tard, il va faire son tish qui parle de la Géoula, qui parle de ce qu'on est en train de vivre, qui parle de ce que c'est incroyable. Un Rebbe Oussiatine, que vous compreniez un petit peu c'est quoi la Torah de Oussiatine, cette Torah Tassod de Oussiatine. Pour que vous compreniez, il faut que je vous raconte une histoire. Mais cette histoire, ce n'est pas moi qui la raconte, c'est lui. Il raconte, Rabbi Israël, que quand il est jeune et qu'il se marie, il va se marier avec la fille de Reb Nachum Mitchernobyl. Tov. Et il raconte qu'il reçoit la visite de son grand-père. Il reçoit la visite de son grand-père juste avant la choupa et lui dit: sache que la famille de ta femme, ce sont des grands tzadikim. Et sache que dans leur chassidut à eux, chassidut Tchernobyl, eh bien, ils se souviennent à chaque instant qu'il y a Dieu. C'est beau. C'est beau de se souvenir à chaque instant qu'il y a Dieu. Mais lui dit son grand-père au jeune Israël Friedman, il lui dit: aval, ne te trompe pas. Chez nous, dans notre chassidut, nous, on ne se souvient pas qu'il y a Dieu à chaque instant. Avalanachnu lo shochachim. Eux, ils se souviennent. Anachnu lo shochachim. C'est-à-dire quoi? Ils se souviennent et nous, on n'oublie pas. Quelle différence? Eh bien, il explique la chose suivante. Et il raconte une histoire. Il dit un jour, il y avait un chassid. Il y avait un chassid qui est parti de son village pour aller rencontrer son rebbe. Et un jour, alors la marche était longue, et puis à un moment donné, arrive Shabbat. Et donc, il s'arrête dans le premier village qu'il trouve et il va à la synagogue du village. Il se met à prier, le rabbin de la ville et faisait partie des mitnagdim, des anti-chassidiques. Et il voit ce nouveau venu prier avec ferveur. Il vient le voir à la fin de la prière, il l'invite pour manger chez lui Shabbat. Et il raconte qu'en fait, tout le repas, ils ont kiffé, ils ont parlé de Torah, de Haggadah, de Halakha, c'était très bien. Et à un moment donné, le rabbin demande au chassid: mais où vas-tu? Et le chassid lui répond: écoute, je vais chez mon rabbi. Et là, le rabbin, qui était contre les rabbanim chassidim, lui dit: mais enfin, n'y a-t-il pas dans la région un rabbin que tu pourrais faire de lui ton rave? Évidemment, il pensait à lui-même. Et notre chassid lui dit: écoute, non, je ne peux pas parce que mon rabbi, il a quelque chose de particulier. C'est quoi? Eh bien, ou lo shochéach et akadosh baruch hu af pa. Il n'oublie jamais Dieu. Et le rabbin lui dit, ah, parce que les autres, ils oublient? Et le chassid répond, bah oui. Il dit, ah ouais, genre moi, par exemple, j'oublie. Bah oui. Il dit, comment ça, tu sais lire dans les cœurs? Et il lui dit, bah oui. Alors il dit, ok, très bien, je vais te tester. À quoi je pense maintenant? Et là, le chassid se concentre et dit, tu penses au verset de Tehilim qui dit « Shiviti Hashem lenegdi tamid ». Et le rabbin lui dit « Bah non, tu t'es trompé, je pense à un Tosfot dans le traité de Menachot dans la Gemara que j'ai enseigné ce matin. » Et là, le chassid lui dit « Ah bon ? Je me suis trompé ? Tu ne penses pas maintenant à « Shiviti Hashem lenegdi tamid »? Je placerai Dieu devant moi toujours ?» Ben, tu comprends pourquoi je dois aller voir mon rabbi. Tu es en train de m'avouer que là, maintenant, tu ne penses pas à Shiviti. Les amis, Lotishkar, c'est Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. C'est pas quelque chose d'actif, comme on se souvient. C'est quelque chose qui est du plus profond de notre être. Eh bien, c'est ça, la chassidoute de Oussiatine. Rabbi Israël Friedman de Oussiatine, c'est cette dimension d'être dans une connexion totale avec Dieu à chaque instant. À chaque instant. Alors, on a parlé de Gour, la Torah qui est une Torah éternellement au quotidien. On a parlé de Belz avec les Nigunim apaisés de la terre d'Israël. Et on a parlé du Rabbi de Oussiatine avec cette dimension d'être en contact permanent avec Ribono Shel Olam. Bon, ça fait quand même beaucoup de polonaises. Hein. Donc, je vous propose de continuer notre voyage et de partir, non plus cette fois en Pologne, mais de partir loin, à l'est. Partons à Bagdad. Eh oui, nous avons parlé du Chacham Yosef Chaim, évidemment, on a parlé du Ben Ishraï. Comment ne pas évoquer son élève, son grand élève, Rabbi Yehuda Ftaya. Rabbi Yehuda Ftaya fait partie de la plus pure tradition de la Torah et de Torah ta Kabbalah de Chachmei Bagdad. Mamash kacha. Il est déjà Rav de Moré Hora à l'âge de 17 ans. Il a été mis en place par Rabbi Abdallah Somer, dont on a déjà parlé. Et il est l'élève de Rabbi Yosef Chaim à Ben Ishraï. En 1933, Rabbi Yehuda Ftaya arrive en Eretz Israël. Il arrive à Jérusalem et il va avoir un nouveau minhag. C'est quoi son nouveau minhag? C'est que depuis le moment où il arrive en Eretz Israël, il va prendre la tradition de faire Tikkun Chatzot au Kever Rachel jusqu'à sa mort. Car pour Rabbi Yehuda Ftaya, la Torah Tassod ne peut avoir une influence alors qu'il mourra en 1942. La Torah Tassod ne peut avoir une influence que mais que si elle est rattachée à Rachel chez Mevaka Albanéa. Pourquoi le Tikkun Chatzot, il le fait à Kever Rachel et pas à Merat Amarpela ou pas ailleurs à Jérusalem? Eh bien, parce que Rachel Imenu est celle qui accompagne le départ en exil pour pouvoir accompagner le retour de l'exil. Car pour Rabbi Yehuda Ftaya, il ne peut pas y avoir de Torah Tassod réelle si elle ne ramène pas non seulement la Torah, mais le peuple juif en terre d'Israël. Et donc Rabbi Yehuda Ftaya va devenir le chef de file de cette idéologie-là. Mais qu'en est-il de Chachmé Ama'arav? Ken, Chachmé Ama'arav, Misa Ama'arav, eh bien, je nous transporte au Maroc. Je nous transporte au Maroc avec un rave qui est d'abord et avant tout un descendant d'eux. Vous savez, c'est dur de porter les noms de « je suis le fils de », « le descendant de ». Parce que si je vous dis un rabbin qui chevauche un lion, bah, vous connaissez. Un rabbin qui est aussi un médecin et qui se balade à dos de lion, vous me répondez, Rabbi Ephraim Ankawa. Et on a déjà parlé ensemble dans ce cours. Eh bien, je vous parle maintenant de son descendant direct. Il s'appelle Rabbi Raphaël Ankawa. Abotai, Rabbi Raphaël Ankawa, il est le premier grand rabbin du Maroc. Il est le premier grand rabbin du Maroc et Rabbi Raphaël Ankawa n'est pas seulement un grand Possek Halacha, il n'est pas seulement Dayan, il n'est pas seulement Gedeot, il n'est pas seulement Parshan de la Torah. Aval, il fait également partie de cette très 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 grande tradition de Chachmé HaMekoubalim. Tout simplement. Et la Kabbalah des Chachmé Marocco, et ça, quand on va arriver à la Torah de Baba Salé, eh bien, ça sera quelque chose qui sera encore plus évident. Mais la Torah de Chachmé Marocco est une Torah de simplicité, de, j'ai envie de dire, de yashrut, de droiture. C'est très simple, une ligne droite. Nahon. L'honnêteté, l'authenticité, l'intégrité. Zeh Rabbi Raphaël Ankawa. Et ça se ressent dans ces psakim. Il n'y a pas de fioritures. Il n'y a pas de mots en trop. Il n'y a pas de je veux écrire pour faire joli. Tac. Yachar. Yachar mamash. Lorsque les Français arrivent au Maroc et vont essayer de faire rentrer la culture française au Maroc, dans les écoles juives également, Rabbi Raphaël Ankawa va se tenir debout et va dire au gouvernement français qu'il est impensable de leur dire comment être juif, de la même façon que lui ne pourrait pas leur dire comment être français. Et cette honnêteté va faire que les Français vont le laisser gérer comme ils le souhaitent. Si bien que dans les communautés dans lesquelles Rabbi Raphaël Ankawa est présent, eh bien, il n'y a pas l'influence française qu'il pourrait y avoir dans le reste de l'Afrique du Nord. Rabbi Raphaël Ankawa est quand même nommé le grand rabbin du Maroc. Par qui? Ben, par qui? Par les Français. Dans la mesure où les Français sont devenus les patrons dans la région, eh bien, ils disent, il faut un grand rabbin, il faut un grand rabbin. Mais quand on se pose la question, mais alors qui va être le grand rabbin? Eh bien, la question, en fait, ne se pose même pas. C'est évidemment Rabbi Raphaël Ankawa qui est choisi. Yashrut. Donc, si on a dit Gour, c'est la dimension de la Torah, elle est au quotidien et elle est perpétuelle. Si on a dit Belz, c'est l'apaisement de la Torah d'Eretz Israël. Si on a dit Oussiatine, c'est ne jamais oublier ma connexion avec Akadosh Baruch Hu. Le Rabbi Raphaël Ankawa, Yachar. Yachar, et Rabbi Yehuda Phtahya, la connexion avec le retour des exilés. Bon, c'est pas mal, Nahon, mais on ne s'arrête pas là. Non, on ne s'arrête pas là du tout. Où est-ce qu'on va aller maintenant? Eh bien, les amis, je vous transporte chez un rabbin, comment vous dire? Tout le monde le connaît. Oui, tout le monde le connaît. Alors, tout le monde ne le connaît pas forcément par son nom, mais tout le monde le connaît par le nom de son bouquin. Si je vous dis Chafetz Chaim, Ça vous parle? Vous voulez que j'inscrive les noms? Eh bien, très bien, il n'y a pas de problème. Alors, je vais les écrire ici dans le chat. Comme ça, hein, vous les aurez. Alors, on a commencé à parler. Le premier rabbin dont on a évoqué, c'est le rabbi de Gour. Ok, vous vous rappelez, Rabbi de Gour, Rabbi Yehuda Leib Altar. Alors, c'est moi qui ai écrit ou c'est vous qui ai écrit des... Je ne m'en rappelle plus. Bon, le rajout. Le Rabbi Yehuda Leib Altar. Donc, le Rabbi de Gour. Yehuda, je... hop là. Yehou, ah non, non, c'est au préféré. Yehuda Leib Alta. Ça, c'est le premier. Ensuite, on a parlé de Rabbi Shimon Rokar. C'est le Rabbi de Belz dont on a parlé. Ensuite, on a parlé de Rabbi Israël Friedman, le Rebbe de Oussiatine. Ensuite, on a parlé de Rabbi Yehuda Ftaya, l'élève du Ben Ishraï. Et ensuite, nous avons parlé de Rabbi Refael Ankawa. OK? Les trois personnes que nous avons évoqué, les cinq personnes, c'est ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, c'est ça. Les cinq personnes que nous avons évoquées, Rabbi Yehuda Leib Altar, Rabbi Shimon Rokar, Rabbi Israël Friedman, Rabbi Yehuda Ftaya et Rabbi Raphaël Ankawa. Et là, nous sommes transportés à Radin. Non, ce n'est pas des radins. Nous sommes à Radin, dans la ville de Radin, dans l'actuelle Biélorussie. Et c'est là que nous allons parler de cet homme que tout le monde connaît, le Chafetz Chaim. Pour son vrai nom, Rabbi Israël Meir HaKohen. Israël Meir HaKohen. Israël Meir HaKohen de Radin à Chafetz Chaim. Bon, alors là, il va falloir qu'on s'arrête 2 petites secondes. Parce que le Chafetz Chaim, c'est quand même, c'est du lourd. C'est du lourd. Il a vécu pratiquement 100 ans. Il est né en 1838, il meurt en 1933. C'est énorme. C'est qui le Chafetz Chaim? Qu'est-ce qui nous fait le Chafetz Chaim? Pourquoi il est tellement important le Chafetz Chaim? Les amis, que les choses soient bien claires. Le Chafetz Chaim comprend qu'il y a des gens qui sont pas au niveau d'être Mekoubalim. Il y a des gens qui sont monsieur tout le monde. Il y a des gens qui sont censés être des dirigeants communautaires. Et il y a des gens qui doivent étudier des choses plus profondes. Et c'est pour ça qu'il va écrire et mettre en place des centres d'études différents. Quand il écrit le livre Shmirat HaLashon, Chafetz Chaim, sur les lois sur la Shonara, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Lorsqu'il va mettre en place la yeshiva de Radin et lorsqu'il va écrire le Mishnah Brura, c'est pour qui le Mishnah Brura? Ben, c'est pour que les rabbins puissent enseigner la halakha. Encore une fois, pour tout le monde. Mais d'abord, il faut parler bien. Et ensuite, tu peux commencer à faire la halakha. Ça ne sert à rien que tu commences à étudier l'Hilchot Shabbat si tu parles comme un pourri. Mais il va mettre en place Kollel Kedoshim. Ben ça, Kollel Kedoshim. Bon, rien à voir avec les Kollelim actuels. Mais c'est quoi le Kollel Kedoshim? C'est un endroit où on étudie la Torah, mais particulièrement ce qu'on appelle Seder Kodashim. Le Seder Kodashim, c'est-à-dire toutes les lois concernant le Beth Amikdash. Toutes les lois concernant le Beth Amikdash, parce que pour le Chafetz Chaim, ça y est, Dos is Dos. Zeuze, comme dit son fils dans le livre Toldot Chafetz Chaim, où il explique que lorsque son père a entendu la déclaration Balfour, il a dit Zeu. Zeu! Et donc, il voulait que les Kohanim, particulièrement, lui-même étant Kohen, eh bien, étudie tout ce qui était en lien avec les lois du Beth Amikdash des Korbanot pour être prêt à pouvoir rebosser au Beth Amikdash. Ce qui est incroyable, c'est qu'il est tout autant un rabbin qui a les yeux tournés vers la réussite sioniste en Israël, mais qui est d'un autre côté le rabbin le plus reconnu du monde, j'allais dire, anti-sioniste, ou même pas anti-sioniste, mais du moins du monde de la rabbanoute d'Europe, à ce moment-là. Il est un consensus total, le Chafetz Chaim, et ça, c'est sa grandeur. C'est sa grandeur. Il fait consensus chez tous les milieux. Et ça, c'est fantastique. Et il va être parmi les fondateurs de ce qu'on va appeler Agudat Israël. Eh oui, Agudat Israël, c'est-à-dire l'organisation des rabbins orthodoxes qui a pour but numéro un de se battre contre l'assimilation. Eh oui, et pour vous dire, en 1913, lorsque la Agudat Israël tient son Kenes, eh bien le sujet du Kenes, c'est l'assimilation. Il y a plein de gens qui vont être invités pour parler et dire comment est-ce qu'eux, ils voient la lutte contre l'assimilation. Mais le Chafetz Chaim va envoyer une invitation officielle au grand rabbin de Eretz Israël, le Rav Kook, pour lui dire, viens nous expliquer comment est-ce que l'Alia la réponse à l'assimilation. C'est le Chafetz Chaim lui-même qui va se mouiller pour calmer les différends qu'il pouvait y avoir entre le Rav Sonnenfeld et le Rav Kook. Bekitsour, le Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen de Radin, eh bien, est tout simplement le rabbin, je pense, le plus incontournable, des premières années du XXe siècle. La halakha, c'est lui. La Torah Tassot, qui veut nous rattacher au Beth Amikdash, c'est lui. La Torah Tadibour, c'est lui. Pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu nous envoie le Chafetz Chaim à ce moment-là de l'histoire pour nous réapprendre à parler? Eh bien, parce que le moment où Am Yisrael est en exil, eh bien, sa parole n'a pas d'importance. Parce que, comme dit le prophète Shelomo, Chochmat Amisken Bezouya, Udvarav Inam Nishmaim, la Chochma, la sagesse du Misken, est tournée en dérision et ses paroles ne sont pas entendues. Et donc, au moment où Israël revient sur sa terre parce que la Kadosh Baruch Hu nous ramène, eh bien, c'est le moment de redonner au peuple juif son dibour, de réapprendre aux gens à parler comme il faut. Il est extrêmement proche d'un autre rabbin. Alors, c'est qui cet autre rabbin? Alors qu'on a dit que pour lui, l'idéal de reconstruction du Beth Amikdash, c'est un idéal évident, le Chafetz Chaim va tout de même dire que si l'idéal d'Israël est un idéal fondamental, je ne veux pas m'associer à une organisation qui est dirigée pas par la Torah. Et en cela, eh bien, il s'opposera à son ami de longue date, la personne dont nous allons parler maintenant, qui s'appelle le Rav Reines. le Rav Reines, qui lui va décider de tout simplement rentrer dans l'organisation sioniste mondiale. Je parle du Rav Yaakov, Yitzhak Yaakov Reines. Donc le Rav Yitzhak Yaakov Reines, Yitzhak Yaakov Reines, avec deux Yud. Reines. Le Rav Reines va prendre fait et cause pour l'organisation sioniste mondiale et va suivre Herzl. Il va l'entendre parler au premier congrès et dès la fin du premier congrès, il décide, congrès sioniste évidemment, il décide de prendre fait et cause pour le mouvement sioniste. Et il va créer la branche religieuse de l'organisation sioniste mondiale qui s'appelle HaMizrahi. HaMizrahi, tout simplement. Mais il faut bien comprendre que le Rav Reines est connu. Il est connu dans tout le monde juif en Europe orientale, en Lituanie. Il est connu comme étant un rabbin extrêmement. Genre, c'est pas un petit joueur. Il est connu comme étant vraiment le top. Mais d'un autre côté, il est le pur produit des élèves du Gaon de Vilna qui sont venus en Eretz Israël avec Rabbi Israël Mishkov. Il se voit complètement dans cette réalité-là. Son père, Rabbi Shlomo Naftali Reines, a fait partie de ces gens qui sont montés en Israël avec Rabbi Israël Mishkov. Bekitsour, le Rav Reines va mettre la Torah à l'intérieur de l'organisation sioniste mondiale. Et encore une fois, on parle de gens qui ne sont pas forcément à la base des gens qui ont grandi dans une réalité, voilà. Mais le Rav Reines se revendique lui-même de la famille de David Ameller. Il y a dans son livre Nod Shel Demaot, où il met son arbre généalogique qui le rattache de père en fils jusqu'à Rashi. Et Rashi, nous avons une massorette qu'il était un descendant du roi David. Finalement, le Rav Reines, eh bien, va faire partie tout simplement des rabbins les plus emblématiques du début du XXe siècle. Parce que lorsqu'on est en train de reconstruire une organisation dans laquelle la nation reprend sa place, eh bien, il est fondamental que la Torah ait son mot à dire. Et c'est pour ça que lui, il rentre dans l'organisation sioniste pour dire on ne peut pas la laisser aux mains de quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons pas être des spectateurs de la reconstruction nationale. Et la dernière personne que j'aimerais évoquer ce matin, c'est Rabbi, hein, que j'aime particulièrement, que j'affectionne beaucoup. Je parle d'un rabbin que je kiffe particulièrement. Il s'appelle Rabbi. Attention, tenez-vous bien. Meir Simcha HaKohen. Encore un Kohen. Ça n'arrête pas les Kohanim. Rabbi Meir Simcha HaKohen de Dvinsk. Plus connu sous le nom de son livre Mesher Chochma. Attention, tenez-vous bien. Tenez-vous bien parce que le Mesher Chochma, donc Reb Meir Simcha HaKohen de Dvinsk, eh bien, comme son nom l'indique, il habite à Dvinsk. Bon, il est extrêmement pressé de sortir son livre Mesher Chochma. Mesher, c'est les initiales de son nom. כן, מאיר שמחה הכהן, משך חוכמה, il a énormément envie de le sortir, mais il sait que s'il commence par sortir son livre Meshech Chochma, personne ne va le lire. Pourquoi? Parce qu'il vit dans une époque où le limoud règne en maître, et que donc si tu n'écris pas un livre de limoud, alors tu n'es pas considéré. Donc il dit, je vais écrire un livre qui n'est pas le plus important pour moi, mais pour que les gens puissent lire le deuxième. Et donc, il y écrit un premier livre qui s'appelle Or Sameach, qui est un commentaire du Rambam sur le Mishneh Torah. Une fois qu'il a écrit le Or Sameach, alors tout le monde dit « Ah, oh, c'est fantastique, ce rabbin, fantastique !» Et donc, il peut se mettre à l'écriture de son livre Meshech Chochma. Et le Meshech Chochma, eh bien, il est fantastique. Vraiment, le commentaire du Meshech Chochma, il est fantastique parce que c'est un rabbin qui est totalement, mais alors totalement, en phase avec son époque. Il vit les révolutions russes. Il vit les révolutions russes de 1917. Et il est tellement, tellement conscient des problèmes internes qu'il y a dans le peuple juif, qu'il dit que tout ce qui se passe dans les révolutions russes, eh bien, si on ne gère pas l'intérieur du peuple juif et qu'on ne ramène pas une véritable fraternité dans le peuple juif, Shum davar lo yeler. Il écrit cela de manière incroyable dans le verset de la paracha de Vaera, dans le livre de Shemot, lorsqu'il nous dit, il nous dit la chose suivante, le verset nous dit que Dieu a ordonné à Paro, Melech Mitzrayim, et au Bnei Israël de libérer les Bnei Israël d'Égypte. Et la question que pose le Meshech Chochma, il dit, attends, je comprends pas. Que on dise à Pharaon de libérer les Bnei Israël d'Égypte, je comprends. Mais pourquoi tu demandes au Bnei Israël de libérer les Bnei Israël d'Égypte? Dit le Meshech Chochma, hein, parce que il y avait en Égypte des Juifs qui étaient esclavagistes de d'autres Juifs. Parce qu'il y avait un statut, vous connaissez, des aristocrates, et en bas de l'échelle, les prolétaires. Reb Meir Simcha Cohen de Dvinsk pourrait largement devenir communiste. Il pense qu'il faut ramener Achva Veshivion d'Am Israël. C'est pas possible qu'il y ait des Mahamadot dans le peuple juif. C'est pas possible qu'il y ait des juifs très riches et des juifs très pauvres. Il doit y avoir une dimension, de partage au sein du Am Israël. Alors, les amis, je récapitule. Parce que nous venons faire un voyage quand même. Je crois que c'est la première fois où on voit autant de gens, ensemble. On a vu 5, 6, 7, 8 tzadikim qui sont tous à la même époque et qui vont mettre le doigt sur un problème qui est le problème du moment. Est-ce que la Torah est une éternité quotidienne? Rabbi Yehuda Leib Altar, le Rabbi de Gour. Est-ce que la Torah peut être apaisante et apaisée en Eretz Israël? Le rabbi de Belz, Rabbi Shimon Rocard. Est-ce que je peux être un instant non connecté à Dieu? Et est-ce que je peux aller dans une ville qui est dominée par les clochers des églises et les minarets des mosquées? Non, je vais dans une ville juive et je me souviens à chaque instant qu'il y a Dieu, Rabbi Israël Friedman de Ossiatine. Est-ce que je peux avoir une vision de la Torah, de la Géoula, si elle n'est pas la vision qui, justement, nous permet de sortir d'exil, car la sortie de l'exil est une condition sine qua non de la Géoula, c'est-à-dire la sortie des Juifs d'exil, le Kibbutz Galouyot, Rabbi Yehuda Ftaya, Est-ce que on ne devrait pas avoir une droiture dans l'ensemble, dans les enseignements de la halakha, que dans l'enseignement de la du sod, parce que Zeyachar est la Kadosh Baruch Hu, Rabbi Raphaël Ankawa. Mais d'un autre côté, on a aussi évoqué la nécessité de créer une organisation qui se bat contre l'assimilation, et d'un autre côté, de savoir reconnaître les prémices de la Géoula lorsqu'ils apparaissent pour être capable de prendre fait et cause pour le Rav Kook, Rabbi Israël Meir HaKohen. Est-ce qu'il ne s'agirait pas aussi de prendre activement fait et cause pour la résurrection nationale, quitte à eh bien, s'asseoir et prendre des décisions avec des gens qui sont contre la Torah, mais pour le peuple juif, Rabbi Yaakov, Yitzhak Yaakov Reines. Et enfin, n'est-il pas temps de ramener une dimension d'achdout réelle, de fraternité et d'égalité au sein du peuple juif avec Rabbi Meir Simcha Cohen de Dvinsk. Rabotai, 8 Talmidei Chachamim, 8 Mekoubalim, 8 Rabbanim qui vont laisser la place petit à petit aux différents rabbins qui vont avoir une dimension beaucoup plus importante que simplement leur génération. On va commencer à rentrer dans les rabbins qui vont voir la création d'Israël, de l'État d'Israël, et vous me dites, mais il est où le Rav Kook? On n'a pas fait le Rav Kook, il est où le Rav Kook? Et comme je vous l'avais dit, j'ai un problème, c'est un problème interne, hein, que de parler du Rav Kook, je le garde, ça sera notre dernier cours. Notre dernier cours de la série de Torah, de Torah, l'histoire de la Kabbalah, eh bien, ne sera pas chronologique, puisqu'on reviendra dans les années 10 et 20 du XXe siècle pour terminer avec le Rav Kook. Comme ça, je me laisse un petit peu de temps pour me préparer pour parler du Rav Kook. Mais on en parlera, ce sera notre dernier cours, en fait. C'est-à-dire? Et il reste 3 minutes pour les questions. Vous pouvez allumer vos micros.
Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, allumer les micros.
Oui, Meira.
Une question de Meira.
M'entendez?
Oui?
Oui. Pensez-vous que parmi tous ces rabbins que vous citez, il y en a qui aient eu le Ruach HaKodesh?
Alors, je réponds très simplement, tous les rabbins que nous citons, dans les rabbins qui sont l'histoire de la Kabbalah, avaient le Ruach HaKodesh. Mais, attention, Ruach HaKodesh ne veut pas dire névoie. Le Ruach HaKodesh, ce n'est pas la prophétie. Le Ruach HaKodesh, c'est une intuition qui vient du Kodesh. C'est-à-dire qu'ils sont connectés à Kadosh Baruch Hu de manière bien différente de vous et moi. Mais ce ne sont pas des prophètes.
Mais ils ont tous traité de la Kabbalah, ce dont
Tout à fait.
vous
Ravetan,
Oui.
petite question. Donc là, on est à l'époque 1948, Théodore Herzl.
Non,
Il était
pas encore.
influencé
Voilà,
par qui?
attendez, il y en a qui sont morts en 48, mais on va dire que là, on est dans les années 30.
D'accord. C'est juste savoir, Théodore Herzl, il était influencé par qui?
Ah, on a parlé de ça déjà.
Oui.
Théodore Herzl, le rabbin qui va le plus l'influencer, c'est le Rav et le Rav. Voilà, tu vois, tu m'as le Rav Shmuel Moaliver. On a parlé de lui, on a fait tout un cours sur lui, sur le Rav Shmuel Moaliver, qui est le seul, non seulement rabbin, mais surtout dover, c'est celui qui est le seul qui devait parler au premier congrégationniste à part Herzl. Il ne pourra pas venir en personne parce qu'il est malade et il mourra quelques semaines après, mais il a été énormément influencé, Herzl a été énormément influencé par le Rav Shmuel Moaliver.
D'accord.
Eh bien voilà les amis, je crois qu'il est 10 heures. Eh ben oui, tout à fait.